Bonjour et bienvenue au Cul de l'Épi. Bonjour internautes, j'espère que vous allez tous bien. Ce matin, on a encore la joie de célébrer le Seigneur ensemble et on est avec toute l'équipe, on est content de pouvoir vous amener au pied de la croix. Alors, je voudrais qu'on aiguise un petit peu nos armes ce matin. Et une en particulier, c'est la louange, parce qu'avec la louange, on peut détruire beaucoup de forteresses telles que l'incrédulité, la peur, le doute. Alors, si vous êtes d'accord, on va le chanter. On va chanter. Il vient sur les nuées. Alors, je vais vous entendre chanter et on va renverser les forteresses.
Il vient sur les nuées, les rois du monde s'inclinent. Les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu?
Notre Dieu est le lion, le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes.
Amen.
Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui.
Ouvrez grand les portes de vos cœurs.
Ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer
tous les captifs.
Qui peut arrêter
notre Dieu?
Qui peut arrêter notre Dieu?
Notre Dieu est le lion, le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui.
Résister à ta puissance, Dieu. Rien ni personne ne peut te combattre, Dieu. Qui peut t'arrêter? Chantons-le.
Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui.
Thank you.
je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, oui, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur.
Et toujours invaincu,
toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'éclate, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges,
nous voulons proclamer que notre cœur est à lui et seulement à lui et qu'il bat pour lui.
Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi.
Nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul.
Seigneur, te chanter, alléluia. Et je voudrais juste vous lire un verset dans le psaume 18, versets 3 à 4. C'est David qui parle et qui exprime sa reconnaissance pour la protection que nous avons en Jésus-Christ.
Le Seigneur est mon solide rocher. Il me protège avec puissance et me rend libre. Mon Dieu est le rocher où je m'abrite. Il est mon bouclier, mon puissant défenseur et mon sauveur. Louange au Seigneur, je fais appel à lui et il me sauve de mes ennemis.
Amen. Quelle promesse nous avons. Dieu nous sauve. Dieu nous sauve de tout ce qui veut nous détruire, de tout ce qui veut nous enlever cette foi que nous avons en lui. Alors, je vous invite à chanter encore combien et exprimer notre reconnaissance et combien... On veut chanter combien il est grand, infiniment grand. Tu nous délivres de tous nos ennemis.
Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté, alors mon âme veut s'écrier. Je veux chanter, alors
disons-lui.
Alors mon âme veut s'écrier.
On ressent tout ce qu'il nous a fait.
De tout mon cœur, je veux chanter. Ô Dieu, tu es.
Dieu, tu es infiniment grand, de le proclamer parce qu'il vous sort de vos pièges. Il vous accompagne sur votre chemin difficile. Il est là, il ne vous oublie pas. Quelle joie! Je voudrais que vous saisissiez cette promesse. Vous saisissez ensemble, malgré les circonstances, malgré ce que vous vivez, que ce soit difficile. Le Seigneur est là, il l'a promis. Il vous sort de votre misère. Il vous donne la paix dans ces moments difficiles. Il l'a promis. Alors, j'aimerais qu'ensemble, on saisisse la main de Dieu. David dit encore au verset 17, « Il m'a sorti du danger pour me libérer. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. » Il nous aime ce matin. Alors, recevez son amour. Saisissez son amour. Saisissez son amour.
Jamais tu es.
puissance,
puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout.
Ton
nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout.
Puissance,
autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout.
Et les anges acclament,
tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié.
Et les anges acclament,
tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint.
Tout ton peuple
Tu es saint, toi le roi des rois. Oui, tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint.
Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint.
Toute la gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut lui donner encore une bonne acclamation, Seigneur? La Bible nous encourage, elle dit, acclamez Dieu, gens du monde entier. Acclamez Dieu, gens du monde entier. Vous pouvez prendre place. Bienvenue à vous, bienvenue à l'EPI. Je m'appelle Mathieu Thoman, je fais partie de l'équipe pastorale. Et nous, l'église de l'EPI, on est heureux de pouvoir vous accueillir ce matin. Vous êtes en visite sur Strasbourg, que ce soit professionnellement, que ce soit familialement ou autre, nous vous souhaitons la bienvenue, vous vous reconnaîtrez certainement, vous êtes de passage, soyez vraiment les bienvenus pour ce temps de célébration ce matin. Vous arrivez peut-être même sur Strasbourg et vous êtes en train de chercher une église locale pour pouvoir, avec votre projet personnel, votre projet professionnel, grandir dans la foi, continuer d'avancer dans la foi. Bienvenue à vous aussi. Si vous voulez en savoir un tout petit peu plus sur l'église, sur notre vie d'église, à la fin de cette célébration, je vous donne rendez-vous dans le hall d'accueil. Il y a un espace pour vous, un espace bienvenu, un espace vie d'église. Vous aurez toutes les informations qu'il faut pour pouvoir vous entretenir peut-être avec un des pasteurs ou avoir via des flyers, des dates de rencontres, selon votre âge, selon votre centre d'intérêt, selon ce que vous êtes en train de vivre et chercher en ce moment. Donc encore une fois, le hall d'accueil est pour vous. Je voudrais juste avoir un petit sondage là, juste par applaudissement. Qui est content par rapport au hall d'accueil et le réaménagement, l'espace et tout ça? Juste par applaudissement. Bon, l'équipe d'accueil et Jérôme, soyez soulagés, l'église est à peu près contente, donc c'est bon. Voilà, donc c'est top. Il me semble qu'il y a une rencontre spéciale pour les Between ce matin, donc les 6e, 5e aussi, il me semble, n'est-ce pas? Donc voilà, vous pourrez rencontrer, c'est maintenant, vous pouvez vous rendre sur la porte qui est sur votre gauche là, et puis il y aura tous vos leaders qui vont vous accueillir ce matin, si c'est pas déjà le cas. Donc si tu es en 6e, 5e, il y a un espace pour toi aussi. Au niveau des cadeaux ce matin, il y a aussi, donc à partir de la 4e jusqu'à la terminale, il y a aussi un accueil pour toi. Donc n'hésite pas, tu peux te rendre par cette porte qui est juste à gauche là, et tu vas être accompagné par des leaders. Allez, c'est votre moment, les collégiens, les lycéens, là, allez-y, faites pas les timides. Et puis l'église va vous encourager d'ailleurs pour votre temps là. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, des temps spécifiques, on aime ça, des temps appropriés, on aime ça vraiment pour qu'ils puissent vivre des temps pour leur âge, pour ces temps, pour cet éveil à la foi qu'on veut aussi pour la nouvelle génération aujourd'hui. L'église est partenaire depuis des années maintenant avec une association culturelle Et c'est vraiment une association sœur, ça fait partie de nous, c'est l'association Enjeu. Et il y a plusieurs actions à Enjeu. Il y a notamment Vestiboutique, un vestiaire solidaire. Tous les 15 jours, le jeudi, possibilité de vous rendre et de visiter cet espace-là. Ça se passe au rez-de-chaussée bas. Jeudi, dans les après-midi, il y a toutes les infos à l'espace aussi vie d'église, si vous voulez avoir un peu plus d'infos. On a une information pour toutes les personnes qui, depuis des années, généreusement, donnent des vêtements, font don de vêtements pour pouvoir soutenir des personnes qui passent par des moments précaires, des moments difficiles. On vous remercie pour toute votre fidélité, mais l'équipe nous dit que pour l'instant, c'est bon. Plus besoin de déposer vos vêtements. On a une certaine quantité de vêtements qu'on peut maintenant diffuser, donner ou autre. Donc merci de ne plus ramener les sacs et surtout de ne plus faire du stockage anarchique en déposant des fois des sacs dans des sorties de secours, des cartons dans des sorties de secours. Donc on vous remercie pour votre fidélité, mais merci de ne plus en ramener pour l'instant. Donc et par contre, ce qu'on encourage à faire avec Enjeu, c'est de bénir peut-être d'autres associations qui auraient besoin de dons de vêtements. Donc il y en a plusieurs dans la ville de Strasbourg. Vous pouvez trouver tout ce qu'il vous faut en ligne ou autre, ou sinon rapprochez-vous d'Enjeu, on aura peut-être des adresses pour vous. Mais donc, avec les vêtements que vous avez, vous pouvez bénir une autre association ou d'autres associations. Enjeu aussi, c'est des actions à direction des adolescents, des enfants, des jeunes, des familles. Et à la fin de cette célébration, on a une vente de gâteaux. Qui avait oublié le dessert quand ils ont invité les amis à la maison ce midi? Ne levez pas la main. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a des bons gâteaux qui vous attendent. Vous pouvez faire d'une pierre deux coups. Sauver les meubles avec un dessert pour les invités que vous avez invités. Et en même temps, profiter de bénir et d'encourager les ados qui organisent un week-end d'intégration. Et tous les bénéfices de cette action, de cette vente, ira directement soutenir ce week-end d'intégration des adolescents. Donc ça, c'est pour Enjeu. On accueille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plusieurs tranches d'âge ici à l'EPI. Ça va de 0 à 80... 17 ans, il me semble. Et il y a aussi tout un accueil à l'espace petite enfance. Ça se situe au rez-de-chaussée haut ici, sur votre droite, sur ma gauche. Et si vous avez des enfants entre 0 et 3 ans, sachez qu'il y a un espace pour eux. Ils sont importants pour nous. Et vous avez la nurserie pour les 0 à 1 an. Ils ne marchent pas encore. Il y a tout un tapis d'éveil. Il y a ce qu'il faut. Il y a une retransmission même de la célébration. Si vous êtes maman qui a l'été, il y a un espace pour vous aussi. Vous pourrez être bien en sécurité pour pouvoir le faire. Si il y a un petit popo dans la couche, il y a aussi un endroit pour changer les couches. C'est vraiment super bien équipé. Si votre enfant a entre 1 et 12 ans, là, il est accueilli à Epichoun. Il y a un peu plus d'animation. Il y a une piscine à balles, il y a des livres, il y a des petites constructions. Il y a pas mal de choses pour leur âge, donc c'est vraiment top. Et si votre enfant a 3 ans, là, c'est Epichoun Plus. Et là, c'est tout cet accueil avec adapté pour lui, mais il y a aussi un éveil à la foi qui est fait. C'est une nouvelle équipe qui vient d'émerger et on remercie ces bénévoles qui se lèvent pour accueillir nos 3 ans. Donc voilà, pour vous qui avez des enfants dans cette tranche d'âge-là, il y a un espace pour eux. Et un petit mot aux parents, l'implication parentale est appréciée. Donc n'hésitez pas, papa, maman, à pouvoir vous joindre à cet effort d'accueillir les enfants dans de bonnes conditions, de les bénir aussi par ce prisme-là. Est-ce que ça va toujours, Église? C'est bon? Oui. On aime pouvoir participer à des actions dans le quartier. On aime valoriser, défendre des enjeux de fraternité dans le quartier de la Méno, là où on est implanté. Et on participe depuis plusieurs années à la marche de la fraternité qui consiste à marcher et à aller rencontrer les acteurs. J'ai pas fini de parler, qui a tapé sur la cloche comme ça? La marche de la fraternité consiste à faire une marche dans le quartier et d'aller à la rencontre des acteurs de la vie religieuse du quartier. C'est organisé par des églises, par des cultes différents pour pouvoir être dans le dialogue, échanger, se connaître, favoriser le vivre ensemble, organisé aussi avec des élus de différentes sensibilités, différentes communautés religieuses. Et on se retrouve également avec les frères et les sœurs des églises évangéliques qui participent aussi à cette marche. Donc elle aura lieu le dimanche 29 septembre. Le départ est à 14h au jardin interreligieux L'Oasis, avenue de Normandie. Vous avez tous les flyers qui sont disponibles si vous êtes intéressé par cette manière de briller, d'être une bénédiction, de pouvoir aller à la rencontre de ceux qui sont différents, qui pensent peut-être ou qui prient peut-être différemment, et de pouvoir être d'être au contact de cette population qui nous entoure dans cette église là où on est implanté. C'est vraiment un moyen, parmi d'autres, de pouvoir rayonner, d'être une bénédiction, d'aller à la rencontre. Donc c'est le dimanche 29 septembre. Toutes les flyers sont à l'espace vie d'église. Concernant aussi notre vie d'église, on a les portes ouvertes de l'EPI qui arrivent. Vous êtes peut-être nouveau, vous dites, comment ça? Il y a une église qui fait ses portes ouvertes? Oui, on aime faire découvrir l'église dans ce qu'elle est à l'intérieur, comment on vit les choses, comment est-ce qu'on veut concrètement donner du sens et apporter du sens autour de nous avec l'évangile. Donc, cette porte ouverte, elle a lieu le dimanche 6 octobre. Plus de 30 services de l'église vont vous dévoiler, vous ouvrir leur cœur, des porteurs de projets, des personnes qui donnent du sens à l'église, qui sont investies. Ça va du service de l'enfant jusqu'au contact de rue, ça va des aînés jusqu'à la louange. Et on aura aussi un autre service, un service en ligne aussi. Enfin, il y a plusieurs services dans l'église et c'est une manière de faire découvrir l'église à ceux qui n'y vont pas, à ceux qui ne connaissent pas l'église aujourd'hui, comment elle peut vivre, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi notre cœur. Donc les portes ouvertes de l'EPI, c'est le dimanche 6 octobre 2024. On voudrait maintenant vous présenter une autre facette de l'église. C'est l'église en ligne, l'église connectée. Et je vais inviter Camille à venir pour nous présenter un petit peu comment nous rayonnons, nous brillons. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Camille, bienvenue.
Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc effectivement je m'appelle Camille et je suis notamment en charge des réseaux sociaux de l'EPI. Alors qu'est-ce qu'on entend par réseaux sociaux? Nous avons déjà premièrement Instagram. Instagram, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. C'est donc EPI-du-bas Strasbourg. Actuellement, on a à peu près 431 abonnés. Je crois que ça a un petit peu augmenté depuis que j'ai fait la slide. Mais voilà, on a du coup Instagram qui est notre vitrine, on va dire, de l'église. C'est ce qui nous permet effectivement de pouvoir mettre des informations. Souvent, on met des informations d'agenda qui concernent des célébrations spéciales ou bien des événements voilà particuliers. On permet également de montrer voilà ce qu'est la louange, ce qu'est un message. Nous avons mis en place quelques punchlines des messages précédents. Vous pouvez retrouver en fait des punchlines du dimanche précédent. Voilà, en gros, Instagram. Ensuite, nous avons Facebook. Facebook, pareil, ce qui est bien, c'est que c'est mis en lien avec Instagram. Donc souvent, ce qui est posté sur Instagram est posté sur Facebook. Donc c'est pour souvent la tranche d'âge un peu plus élevée. Vous voyez Facebook? Non? Bon, ok. mais voilà, on a à peu près 1300 abonnés. Et enfin, nous avons YouTube, par lequel nous transmettons les cultes en ligne, en direct, mais également ce qui s'appelle des shorts, où effectivement, là, c'est pareil que sur Instagram, c'est des petits résumés, on va dire, des messages du dimanche matin. Donc voilà, c'est hyper important pour nous d'être en ligne, d'être sur les réseaux sociaux, afin ben voilà vraiment de pouvoir partager la bonne nouvelle. C'est vraiment notre but premier, que des personnes puissent entendre parler de l'EPI, puissent venir à l'EPI et puis puissent surtout rencontrer Dieu. C'est vraiment notre point final. Et voilà, et simplement aussi, si jamais vous me voyez parfois moi ou peut-être d'autres personnes de l'équipe se balader avec un portable ou un appareil photo, non, c'est juste qu'on n'est pas distrait, hein, vous inquiétez pas, c'est simplement qu'on prend parfois des photos et des vidéos de la célébration. Voilà, peut-être que parfois on vous demandera, on vous sollicitera pour des vidéos, mais en tout cas, ne paniquez pas, tout va bien. Et voilà, c'est tout. Merci.
Alors on va faire quelque chose, si vous êtes d'accord, on va se prendre 30 secondes. Et si vous êtes sur un réseau social, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram ou que ce soit Facebook, vous pouvez sortir votre portable là maintenant, on se donne 30 secondes. On va mettre une ambiance tamisée ici, ça ne vous regarde que vous. Et on va se donner le moyen, vous pouvez y aller, hein, on a le droit de sortir son téléphone à l'église là. Et juste, voilà, si vous êtes OP, si vous voulez, comme ça, ça permettra à Camille de craquer Internet avec un algorithme qui va s'affoler. Mais qu'est-ce qui se passe à Strasbourg? Il y a un réseau social, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, si vous aimez Facebook, allez-y, vous pouvez nous suivre, nous liker, on va vraiment alimenter. Et merci beaucoup Camille pour cette annonce, c'était vraiment top. Donc voilà, soit sur Instagram, vous cherchez EPI, et vous allez trouver YouTube aussi, vous allez pouvoir trouver, voilà, tranquillement. On aurait pu mettre une petite musique de fond jazzy, ça aurait été tellement bien. Non, c'est bon Alex, c'est bon. Voilà, merci à vous. C'est une manière d'être connecté aussi et parfois de partager la bonne nouvelle pour ceux qui pratiquent les réseaux sociaux. On partage une story, on partage un réel et ça permet à un ami, un collègue, quelqu'un de découvrir un peu ce qu'on croit. On est bon ? J'ai une dernière annonce pour vous, je voudrais vous remercier. Vous remercier pour vos dons. Comme vous le savez, l'EPI, c'est plusieurs porteurs de projets, plusieurs services qui sont mis à disposition et de l'Église, mais qui sont aussi là pour permettre à l'Évangile d'être connu à l'extérieur. Et chaque don financier permet de soutenir des actions et des services qui permettent à l'Évangile d'être entendu, l'Évangile d'être connu, permettent aussi à l'Église d'être un hôpital aussi spirituel pour les personnes qui auraient besoin à un moment donné de soins pastoraux, qui auraient besoin peut-être de retrouver du sens dans leur foi. Donc on vous remercie pour vos dons. On invite aussi peut-être quelqu'un qui ici découvre l'Église et qui a envie de soutenir ces actions et ces services qu'on propose. Si vous voulez en savoir plus, il y aura la porte ouverte, mais on a trois manières sécurisées de pouvoir donner, de pouvoir soutenir financièrement l'Église. Vous avez des troncs à la sortie de la grande salle ici où vous pouvez mettre ce que vous avez décidé de mettre dans des troncs. Vous avez aussi des RIB qui sont sur les troncs. Vous avez des RIB pour la vie d'Église, pour soutenir les actions et les services de l'Église. Vous avez aussi un RIB dédié pour le projet bâtiment. Si vous avez à cœur de pouvoir soutenir le projet bâtiment, vous avez une partie des informations qui sont dans le mur qui est juste derrière vous, là-bas. À vous qui êtes à ma droite, vous avez des croquis. Vous avez le livret avec le projet en soi, donc si vous voulez en savoir un peu plus. Donc les troncs sont là avec des RIB à disposition. Vous avez Hello Asso, vous avez à flasher ce QR code et vous aurez une page ouverte sur notre Hello Asso pour donner en ligne. Vous pouvez encore le faire, comme j'ai dit, par virement, par chèque. Tous les RIB sont là. Un grand merci à vous. On reviendra vers vous pour continuer de s'encourager pour ce beau projet On Reste qui est là et dans lequel on vit quelque chose de fort, de s'implanter ici à la Plaine des Bouchers, à la Méno, à Strasbourg, et continuer d'être une lumière qui brille de l'Évangile. Amen. Amen. On va maintenant écouter un message, et on croit que ce message va nous encourager, nous fortifier, nous challenger. Je vais inviter Mackenson à venir. Mackenson et Laura sont en couple pastoral, en formation ici, et Mackenson, voilà, au sein des Assemblées de Dieu, est en formation pastorale. Donc c'est son premier espace de formation pastorale avec notre famille d'église. Ce matin, il va continuer notre série sur la culture et on va prier pour lui, que Dieu le bénisse, que Dieu l'encourage, le fortifie. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ce temps où on se réjouit de tout ce qu'on peut vivre en église. Elle est belle, ton église. Merci pour cette diversité. Je vais en profiter aussi avec l'église pour te remercier pour la diversité des orateurs, des oratrices que nous avons ici à l'EPI. Quelle richesse pour nous d'être enseignés, challengés, nourris par une panel de personnes avec un cœur pour toi, avec des dons et des talents, une diversité aussi, Seigneur Jésus. Alors on prie pour Mackenson, on prie qu'au travers de ce qu'il va nous communiquer ce matin, il y ait nourriture pour notre âme et que cela puisse nous accompagner pour les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines qui arrivent. Merci de bénir Laura, merci de bénir toute leur formation pastorale. On te prie, Seigneur, que tu continues ton œuvre et que tu puisses faire lever encore plus d'ouvriers dans ta moisson, Seigneur. À toi toute la gloire. Amen. Sois béni, Mackenson.
Merci. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Mathieu l'a dit, on est dans cette série Culture. Et vous savez, depuis plusieurs semaines, on est sur cette thématique qui vise à vous communiquer, mais aussi à nous exhorter sur notre culture d'église. Alors, je rappelle brièvement ce que nous entendons par culture d'église. C'est un ensemble de valeurs, pratiques, de croyances et d'actions qui caractérisent une communauté locale. La culture d'église est, pour reprendre un vocabulaire médical, l'ADN d'une communauté. C'est ce qui nous permet de l'identifier, de la reconnaître. Et lorsqu'on parle des églises de tradition protestante évangélique, les observateurs mettent le doigt sur un point commun, la place centrale qu'occupe la Bible. Et pour comprendre cela, il faut remonter à la Réforme. Nous sommes en 1517 et les réformateurs proclament cinq grands principes. Le premier, sola gratia, la grâce seule. Le salut relève de la seule grâce de Dieu. Le second, sola fide, la foi seule. Le salut acquis par Jésus est quelque part accessible par le seul moyen de la foi. Pas besoin de faire des œuvres méritoires. Le troisième, sola scriptura, l'écriture seule. Les saintes écritures ont toute autorité dans l'Église et dans la vie du croyant. Le quatrième, solus Christus, ceux qui sont en latin, excusez-moi, j'ai encore un peu de mal avec la prononciation. Le Christ seul, Seul Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et enfin, le dernier, soli Deo Gloria, pour la seule gloire de Dieu. Seul Dieu doit être l'objet de louange, d'adoration. Vous l'avez compris ? Le principe de la sola scriptura est celui qui explique la centralité de la parole de Dieu. La réforme est quelque part une redécouverte du christianisme, mais par le biais d'une plus grande fidélité à la Bible. La Bible est le centre de tout. Elle a une valeur prépondérante. Elle édifie l'Église et elle est la source où les croyants viennent puiser des principes pour leur vie. L'attachement à la Bible est d'ailleurs un des traits qui caractérise les enfants de la Réforme. Mais cet attachement ne doit pas exclure le fait que l'on se pose des questions. Pourquoi ? Pourquoi, à l'EPI, nous nous exhortons mutuellement à lire et à méditer la Bible ? Il sera intéressant de voir ensemble les différentes réponses que l'on peut formuler. Mais avant de lire notre texte de base, prenons ensemble connaissance de la prédication de ce matin. Scriptura, méditer pour mieux grandir. Méditer pour mieux grandir. Alors, notre texte se trouve en 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Je pense que beaucoup connaissent ce passage-là et pourraient même le réciter par cœur. Paul écrit à son fils spirituel, du nom de Timothée, et il dit quelque chose de fort intéressant. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Pourquoi méditer et lire la Bible en 2024? Car, et c'est notre premier point, elle est la parole de Dieu pour l'humanité. Paul utilise l'expression « toute écriture » et on peut se demander à quoi cela renvoie. La lecture du verset 15 nous permet de comprendre qu'il s'agit des écritures saintes. L'apôtre utilise dans ce verset l'expression « hiera grammata » que l'on pourrait traduire par « les écritures sacrées ». Paul pose ici un principe. Les écritures sacrées, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, sont inspirés par Dieu. Nous sommes ici devant l'une des croyances fondamentales de la religion chrétienne, à savoir que la Bible est un livre divinement inspiré. L'inspiration des Écritures se définit comme la manière par laquelle Dieu, par son esprit, s'est adressé à l'humanité à travers la Bible. Le professeur Matthew Sanders, dans le prolongement de cette définition, écrit la chose suivante. La doctrine de l'inspiration nous permet de dire que l'Écriture n'est pas qu'un témoin indirect de la volonté de Dieu. L'Écriture exprime directement la volonté de Dieu, de sorte que ce que dit l'Écriture, c'est Dieu qui le dit. Pour le dire différemment, la doctrine de l'inspiration des Écritures nous permet de comprendre qu'in fine, à la fin, le véritable auteur de la Bible est Dieu. Le Seigneur a eu la grâce de passer par des hommes pour s'adresser à l'humanité. Si la Bible est la parole de Dieu, le disciple doit comprendre et accepter qu'elle est l'autorité suprême qui ordonne et conduit sa vie, et ainsi que la vie de l'Église. Les Écritures nous enseignent sur l'importance d'obéir à Dieu. Elles dispensent des principes qui nous permettent de plaire à notre Seigneur afin de marcher d'une manière digne. Les théologiens, André Birmillet, n'hésite pas à affirmer la chose suivante. L'Écriture sainte, c'est-à-dire les livres canoniques rassemblés dans le corpus biblique de l'Ancien et du Nouveau Testament, est la source et la norme de toute vie et de tout enseignement chrétien. Elle est suffisante et est son propre interprète. Aucun autre élément ne saurait se prévaloir d'une autorité analogue, c'est-à-dire semblable. Paul rappelle cette évidence à Timothée. Les Écritures sont inspirées par Dieu et cette inspiration font qu'elles sont la base de tout enseignement. L'apôtre utilise l'expression « utile pour enseigner ». Dans son esprit, tout ce qui concerne l'enseignement dans l'Église est toujours attaché à la parole de Dieu. Et ça, on le voit dans d'autres textes, notamment Romains 15, 4, où l'apôtre écrit « tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que, grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance ». Tout doit être en lien avec la Bible. Tout doit être en lien avec l'Écriture et encore beaucoup plus vrai dans le cadre de l'Église. La Bible nous enseigne sur la personne de Dieu et nous permet de le connaître réellement. Pour un réformateur comme Jean Calvin, ceci était clair. Il pouvait dire d'ailleurs, il faut donc en venir à la parole, où Dieu nous est parfaitement décrit par ses œuvres. Nous y apprenons que notre Dieu, unique et éternel, est la source de toute vie, justice, sagesse, force, bonté et miséricorde, et que de lui, sans aucune exception, provient tout bienfait. Et qu'à lui, par conséquent, doit revenir à juste titre toute louange. La Bible doit demeurer l'élément central dans nos foyers. C'est à partir d'elle que nous pouvons tirer des principes qui nous permettent de nourrir notre foi et de grandir dans la connaissance de Dieu. Et cela a une grande importance. Encore plus dans un monde où YouTube, on l'a vu tout à l'heure, ou encore d'autres plateformes existent. Un monde où il est facile en un clic de trouver des prédications ou des enseignements. Rassurez-vous, je n'ai rien contre YouTube et les prédications que l'on trouve sur Internet. Je pense comme beaucoup, ce sont des moyens de pouvoir promouvoir l'évangile et ce, aux quatre coins du monde. Cependant, nous devons les utiliser avec responsabilité et équilibre. La prédication ou l'enseignement que tu trouves sur Internet ne t'exonère pas de passer du temps avec ton Dieu dans la prière, la lecture et la méditation de la parole. Je vais répéter parce que moi ça me fait du bien de l'entendre. La prédication ou l'enseignement que tu trouves sur Internet ne t'exonère pas de passer du temps avec ton Dieu dans la prière, la lecture et la méditation de sa parole. Vous le savez tous, je ne vous l'apprends pas, sur Internet, on trouve de tout. On peut trouver des prédications très pertinentes, mais aussi on peut trouver des prédications qui le sont un peu moins et qui peuvent malheureusement tuer notre foi. La clé, ce qui va nous permettre de faire le distinguo entre ce qui est bon, agréable à Dieu et ce qu'il n'est pas, c'est le temps que nous allons passer à prier, méditer sa parole. Nous devons être comme les chrétiens de Béret qui étudiaient les Écritures pour vérifier l'exactitude des propos de Paul. Si ces chrétiens l'ont fait avec quelqu'un de l'envergure de Paul, celui qui a implanté pas mal d'églises, celui qui a écrit beaucoup de livres du Nouveau Testament, alors nous aussi, on doit le faire. Les Saintes Écritures sont pour Paul totalement suffisantes pour convaincre, dénoncer et corriger le monde de notre péché, mais également pour interpeller le frère ou la sœur qui serait sur une voie tortueuse. C'est le sens du verbe « eleko », ici traduit par « convaincre », mais que l'on pourrait traduire par « blâmer »,« corriger » ou « punir ». Lorsque Paul utilise ce terme, il le fait toujours dans un contexte de dénonciation. Il dénonce certaines choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Et le contexte de notre passage confirme cela. Paul dit à Timothée, dès les versets 1 à 4, puis au verset 13, il informe de la venue lors des derniers jours de gens peu recommandables. Ils sont égoïstes, rebelles, ingrats, blasphémateurs. Et pour l'apôtre, Timothée, en tant que ministre de l'Évangile, doit, par la parole de Dieu, dénoncer leurs mauvaises actions. La parole de Dieu est pour l'apôtre le seul moyen pour réfuter, redresser et éduquer dans la justice. Elle est l'élément qui permet aux disciples de Jésus d'être bien fondés et d'être équipés afin de produire de bonnes œuvres. Et comment vivre cela aujourd'hui? Cela passe par comprendre que nous trouvons dans la Bible les ressources suffisantes pour édifier nos contemporains, mais aussi pour les interpeller sur leur égarement, excusez-moi. Nous trouvons dans les Écritures tout ce qu'il faut pour enseigner le jeune converti à bâtir sa vie en Jésus. Nous trouvons dans la Bible tout ce qu'il faut pour redresser, corriger ce qui est en nous n'est pas encore à la gloire de Dieu, afin de grandir dans la sanctification. En définitive, l'Écriture est l'élément central qui nous permet, par la médiation de l'Esprit-Saint, de devenir de véritables disciples du Christ. Pourquoi lire et méditer la Bible aujourd'hui? Car, et c'est le deuxième point, elle est notre nourriture pour notre âme. Nous avons besoin de passer régulièrement du temps à méditer la parole de Dieu. Ce n'est un secret pour personne, mais la vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Nous vivons par un monde des saisons difficiles qui peuvent nous défier dans notre foi. Si Dieu est bon, S'il est puissant, s'il est amour, pourquoi ne vient-il pas me guérir de cette maladie qui m'handicape depuis plusieurs années? Si Dieu est amour, pourquoi a-t-il laissé mon enfant, pourquoi a-t-il laissé mon père mourir? La vie nous fait connaître son lot d'épreuves. Et ce qui nous permet de tenir et d'y faire face est le temps que nous allons passer dans la présence du Seigneur et dans la lecture de sa parole. La Bible est suffisante pour nous donner des principes qui vont nous permettre de résister à des saisons difficiles. C'est étant abreuvé par elle que nous pouvons tenir ferme. Le psalmiste pouvait dire « Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. » La parole du Seigneur est le fondement de notre foi et elle demeure la nourriture pour notre âme. Cette évidence est déclarée par le Christ même. En Matthieu 4, verset 4, Jésus reprend des paroles qu'on retrouve dans le Deutéronome et il dit la chose suivante. « L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Ainsi, nous avons besoin chaque jour de lire et méditer la parole de Dieu. Ne pas le faire serait dommageable pour notre santé, tant spirituelle que physique. Le théologien Wayne Grudem peut écrire la chose suivante. Négliger une lecture régulière de la parole de Dieu est aussi préjudiciable à la santé de notre âme que la privatisation de nourriture l'est à la santé de notre corps. Mes amis, prenons le temps de lire et méditer la Bible. La grâce, c'est que désormais, nous avons une multitude de méthodes qui nous permettent de saisir les trésors de ce livre. Et je vais en citer quelques-unes, hein, brièvement. Lectio Divina, études bibliques, animation biblique, partage biblique et tant d'autres. Nous avons également de la littérature qui nous permet de pouvoir mieux étudier, mieux comprendre un passage. Et à ce titre, le bouquin de Nigel Benyon et Andrew Sark, excusez-moi, mon anglais, il faut que je travaille, je sais, mais priez pour moi, peut-être ça va venir dans quelques années. Ces deux auteurs ont écrit un livre remarquable qui s'appelle « Creuser l'écriture » et qui donne vraiment des clés pour chaque lecteur de la Bible pour étudier un passage d'une manière approfondie. Et ce livre, vous pouvez le commander sur Internet. Et peut-être bientôt, nous l'aurons à l'église, vous pourrez aussi pouvoir le prendre ici. Nous vous encourageons vraiment à vous former, à vous équiper d'outils afin de comprendre le message d'un texte, afin d'éviter de mauvaises interprétations qui peuvent avoir des impacts négatifs sur votre théologie, sur votre foi, sur votre éthique et sur votre santé spirituelle et physique. Et vous le savez, à l'EPI, nous voulons continuer à développer une culture biblique qui soit contextuelle. Nous voulons comprendre le contexte qui entoure les livres de la Bible afin de saisir les principes et les enseignements, qui soient applicables. Une fois que nous avons saisi ces principes, nous voulons les vivre et les mettre en pratique dans notre vie aujourd'hui. Et christocentrique, nous comprenons que la parole de Dieu rend témoignage d'une parole qui s'est incarnée, à savoir Jésus-Christ, qui est le centre du message de la bonne nouvelle. Pour Luther, Jésus était le centre de tout. Il disait la chose suivante, « Avoir le Christ, c'est tout avoir. Si le Christ me reste, tout me reste et peut-être trouvé. » Pourquoi lire et méditer la parole de Dieu aujourd'hui, en 2024? Car elle est un bouclier qui nous permet de résister à certains maîtres du soupçon. J'emprunte et je détourne ici une expression du philosophe protestant Paul Ricoeur. Ricoeur a justement regroupé sous l'expression maître du soupçon trois penseurs de la fin du XIXe siècle. Marx, Nietzsche, Freud. Ces trois penseurs ont fait peser sur la religion et sur l'existence de Dieu un soupçon radical. Et le contexte de la lettre à Timothée peut être en lien avec cela. L'apôtre Paul exhorte son fils à agir en tant que pasteur en veillant sur le troupeau que Dieu lui a donné. Car dans les derniers temps, il se lèvera des personnes qui seront ennemies du bien et qui, par leur action, arriveront à ravir des hommes et des femmes de la saine doctrine. Et nous vivons depuis l'ascension du Christ dans les temps de la fin. Et dans ces périodes, nous voyons l'apparition de certains maîtres du soupçon. J'en parlerai deux ce matin. Le premier, le relativisme. Et le second, l'athéisme. Le relativisme est une orientation philosophique qui remet en cause toutes les notions de vérité, de bien et de mal. Pour ce courant, il n'y a pas d'absolu. Tout peut être remis en question. Les valeurs de bien et de mal dépendent de l'éducation et peuvent être questionnées. L'existence de Dieu, elle est une hypothèse. Le relativisme trouve sa source dans l'Antiquité, mais on peut dire que c'est la période de la postmodernité qui va lui donner une forte résonance. Le postmodernisme se caractérise lui-même par sa grande propension au relativisme. Ce paradigme est animé par une intuition forte. Il n'existe pas de vérité universelle. Ou plutôt, comme le fait remarquer Alfred Kuhn, la vérité n'a de sens que si elle est une opinion parmi tant d'autres. Vous voyez ici le problème. Si tout est relatif, quid de la Bible? Quid de la notion de bien et de mal? Si tout peut être remis en question, finalement, pourquoi vouloir suivre l'exemple du Christ, des prophètes et des apôtres? Mangeons, buvons, profitons de la vie, nous sommes les seuls maîtres. Mes amis, si nous sommes légers dans notre relation avec Dieu, si nous ne passons pas du temps dans la parole, nous pouvons malheureusement être emportés par ce courant de pensée. C'est en étant enracinés dans la Bible que nous comprenons que pour Dieu, le mal et le péché se définissent comme tout ce qui s'oppose à sa volonté. C'est en étant au plus près du témoignage de l'Écriture que nous comprenons que dans ce monde postmoderne, il nous faut incarner les valeurs du royaume afin de montrer à nos contemporains qu'une autre réalité leur est donnée de vivre et de connaître. Pourquoi continuer à lire et méditer la Bible en 2024? Parce qu'elle constitue la meilleure réponse à un deuxième maître du soupçon, qui est l'athéisme. L'historien des religions, Pierre Chavot, donne quelques définitions, quelques éléments de définition concernant l'athéisme. Il écrit « L'athéisme, mot qui remonte à l'Antiquité, notamment grecque, désigne l'absence de Dieu. Un athée ne croit pas à l'existence du divin en général et du Dieu unique en particulier. » Vous le savez, nous vivons dans un monde où certaines personnes n'hésitent pas à remettre en cause l'existence de Dieu. Dieu serait une création de l'esprit humain et les chrétiens sont des êtres attachés à de vieilles fables. Pour Phèdre, le croyant est un être malade, névrosé, une personne qui vit dans une illusion, un monde qui s'est construit afin de l'aider à surmonter la dureté de la vie. Dans son ouvrage « L'avenir d'une illusion », le père de la psychanalyse n'hésite pas à affirmer que Dieu est une construction humaine. Il écrit « Et quand l'enfant, en grandissant, voit qu'il est destiné à rester à jamais un enfant, qu'il ne pourra jamais se passer de protection contre des puissances souveraines et inconnues, alors il prête à celle-ci les traits de la figure paternelle. Il se crée des dieux dont il a peur, qu'il cherche à rendre propice et auxquels il attribue cependant la tâche de le protéger. » C'est dur, hein. C'est pas fini, hein. Un philosophe, bien connu des plateaux télé, peut écrire la chose suivante. Écoutez, soyez prêts. La civilisation judéo-chrétienne se construit sur une fiction, sympathique, celle d'un Jésus n'ayant jamais eu d'existence qu'allégorique, métaphorique, symbolique, mythologique. Pour lui, il n'y a pas d'existence réelle du Christ, seulement symbolique. Il n'existe de ce personnage aucune preuve tangible en son temps. On ne trouve en effet de lui aucun portrait physique, ni dans l'histoire de l'art qui lui serait contemporaine, ni dans les textes d'évangiles où l'on ne trouve aucune description du personnage. Devant de tels raisonnements, nous pouvons nous sentir des fois petits, totalement désemparés. Nous pouvons nous poser la question si finalement on ne s'est pas trompé de chemin. Encore une fois, la meilleure des réponses passe par un retour à l'Écriture. Que nous dit la Bible ? Les récits de la création nous montrent, dès les premières pages, l'activité d'un Dieu qui préexistait avant que l'humanité ne soit créée. Les textes vont même encore plus loin, car ils montrent que le désir de Dieu est de communiquer une partie de son image en créant l'homme. Et cette volonté de communiquer est si forte que même le péché du premier couple ne peut l'empêcher de se faire connaître par le prisme de la révélation. La révélation, c'est Dieu qui se fait connaître à l'homme. La révélation, c'est cette rencontre qui permet à l'homme de décrire avec ses mots son expérience du divin. La révélation, c'est ce qui donne à l'homme l'opportunité de décrire ce qu'il croit être le divin et comment il procède dans son environnement. Ainsi, la Bible nous montre que Dieu est loin d'être une création des hommes. Bien au contraire, et nous sommes navrés pour Freud, Dieu est Dieu. Dieu reste Dieu. Il est le Créateur et nous sommes ses créatures. Concernant l'affirmation de Michel Onfray sur la non-existence réelle du Christ, il est important de savoir que les évangiles constituent des preuves suffisantes pour justifier son existence. Remettre en cause cela, c'est comme nier l'existence du soleil. Il est acquis aujourd'hui, dans le monde académique, que son existence n'est plus à prouver. Le consensus est total, et ce, même chez les historiens qui ne sont pas chrétiens. À l'échelle mondiale, l'existence historique de Jésus fait de nos jours l'objet d'un consensus dans le public. Et plus encore, chez les spécialistes de l'Antiquité, du Nouveau Testament et des origines chrétiennes. Les négateurs de cette existence forment une infime minorité, active sur la toile, mais extérieure au milieu scientifique. C'est bien de se le rappeler, ça. Mes amis, notre foi s'appuie sur un rocher qui est Jésus. Et ce rocher, il est solide. Nos convictions, nos croyances, nos valeurs ont un poids éternel. C'est du solide et aucun mets du soupçon ne saurait remettre en cause cela. Mais la solidité de Dieu et de sa parole ne nous enlève pas la responsabilité de la lire et de l'étudier. Si nous voulons résister aux assauts, aux attaques du diable, il nous faut cultiver un véritable amour pour sa parole. J'arrive à la conclusion. Ce matin, vous l'avez compris, loin de moi l'idée de faire paraître la lecture de la Bible, la méditation, comme étant un devoir religieux, fastidieux, ennuyeux. Non, ce n'est pas le but. Il s'agit de nous inviter à prendre conscience qu'en tant que disciples de Jésus, nous avons constamment besoin d'être nourris. Il s'agit de réaliser que la parole de Dieu demeure encore en 2024 notre nourriture spirituelle. Le moyen qui nous permet de connaître un peu plus notre Dieu, et pourquoi pas nous, est le moyen de comprendre le plan de Dieu pour nos vies. Elle nous donne la capacité de prendre avec un certain recul les drames qui vont peut-être s'abattre sur nous. La Bible, c'est notre boîte à outils qui nous permet de donner des éléments de réponse à ceux et celles qui demanderont raison de notre foi. La Bible est pour le disciple de Jésus l'oxygène nécessaire à sa survie. Pour la préparation de ce message, j'ai été amené à lire quelques lignes de la biographie de Martin Luther. Certains dans la salle savent que j'aime beaucoup Martin Luther. C'est quelqu'un de vrai et d'imparfait. C'est pour ça que j'aime beaucoup ses écrits. Et Luther dit une chose fort intéressante concernant la lecture de la Bible. Il dit la chose suivante. Même si je suis docteur en théologie, il faut quand même que je la prenne en main chaque jour et que je réfléchisse mot pour mot. C'est chaque jour que l'Écriture sainte doit être en usage chez le chrétien. Il faut que chaque chrétien la lise comme si elle était écrite pour lui. Nous restons à l'école de la Sainte Écriture. Elle est belle cette phrase. Hein? Nous restons à l'école de la Sainte Écriture car elle contient de pures paroles de la vie. Concernant les adversaires, les maîtres du soupçon, regardez ce que se dit Luther. Pour échapper au filet des méchants adversaires, laisse tomber les subtilités. Tiens-toi à cette parole divine. Pénètre en elle en rampant comme le lapin qui se réfugie dans la fonte du rocher. Mes amis, ce matin, je ferai un appel plutôt communautaire. Je vous inviterai à nous lever de notre chaise. Comme dit Luther, prenons conscience que la Bible est notre refuge. La Bible est notre protection. Alors oui, il y a beaucoup de choses qui se disent concernant notre foi, concernant nos écrits. Mais la réalité, c'est qu'en fait, nos convictions ont un poids éternel. Nous appuyons sur un rocher. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions prier pour que le Seigneur puisse nous renouveler dans la manière de lire, de la comprendre, dans la manière en fait de la mettre de plus en plus dans nos foyers, dans la manière de la mettre, de la rendre accessible à nos enfants, mais aussi à nos contemporains. On a tous des noms en tête. On a tous des questionnements par rapport à ça. On peut simplement les présenter au Seigneur. Alors que la louange continue à jouer la musique, prions ensemble et remettons à Seigneur ce défi, et un beau défi. Okay. Seigneur, on veut te louer, on veut te remercier, Père, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Ce matin, Seigneur, on vient vers toi. On te demande, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, à être renouvelés dans notre lecture de ta parole, Seigneur, mais surtout à la mettre de plus en plus au centre, Père. Père, nous vivons dans un monde qui a besoin d'entendre ta parole, Seigneur. Et Père, nous voulons être une église qui soit fondée sur celle-ci, Seigneur. Une église, Seigneur, qui tire les principes et les réponses de ta parole, Seigneur Jésus. Alors Père, viens souffler dans nos foyers. Viens souffler, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Afin que nous puissions, Seigneur, cultiver, Seigneur, une saine habitude, Seigneur, Père. Sois magnifié, Seigneur, encore ce matin. À toi soit la gloire, Père.
Jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Je veux chanter, je la gloire du ressuscité, l'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu.
Ensemble,
à jamais tu
Merci Mackenson pour ce message qui nous rappelle toute l'essence, la profondeur de la Bible. Quelqu'un a dit, un choix, vous pouvez rester debout, on a fini, hein, vraiment, vous allez pouvoir. Quelqu'un a dit, si au bout de trois jours, on n'a pas mis en application, on aura oublié ce qu'on aura entendu. Alors je sais qu'à l'EPI, il y a des personnes qui ont déjà opté cette discipline de se nourrir de la Bible. D'autres, peut-être, vous avez décroché. Ça m'est arrivé, moi, personnellement, des fois, de décrocher. Ça a été dur de rembrayer derrière. Mais la grâce de Dieu, avec tout son amour et au travers de la douceur de Mackenson et de la profondeur, Dieu te rappelle de dire, hey, tu peux raccrocher les wagons, en fait. Tu peux raccrocher les wagons. Donc, dans les prochains jours, les prochaines minutes, heures qui sont là, prends du temps avec la Bible. Vous êtes peut-être visiteur, vous n'avez pas de Bible. Vous arrivez pour la première fois, il y a un espace bienvenu. On sera heureux de pouvoir vous offrir la Bible gratuitement pour que vous puissiez dès ce soir ou dans l'après-midi au bord du lac d'Ensheim ou je ne sais où pouvoir l'ouvrir et de pouvoir lire des psaumes, lire. Et si vous avez besoin de conseils, quelqu'un vous dira par où commencer. Il n'y a aucun problème pour ça. On est aussi heureux d'offrir à chaque baptisé une Bible d'études. Nous aimons la Bible et je te remercie Mackenson de nous l'avoir rappelé avec force. Que Dieu nous aide à être une église avec cette culture de la Bible. De la Bible, avec toute cette beauté de ce que tu nous as dit, que Dieu nous aide. Il y a un espace pour vous qui peut-être avez besoin d'écouter de prières qui va s'ouvrir à la fin de cette célébration, juste à ma gauche et à votre droite. Ça sera sur l'allée qui est juste là. Donc on demandera aux personnes de pouvoir la libérer. Il y a toute une équipe avec des badges, vous les verrez, qui sont là, sont prêts à vous écouter. Vous avez été interpellés parce que vous avez entendu, vous avez des sujets de prière qui arrivent cette semaine. Vous avez besoin juste d'être entouré. On est heureux d'être cette église qui peut entourer, écouter et prier. Et selon les prolongements, Dieu conduira. En tout cas, prenez le temps aussi de prendre des gâteaux et de soutenir la jeunesse. Nous voulons que cette jeunesse, elle aime la Bible, elle connaisse la Bible. Et ce week-end d'intégration qui arrive pour elle, c'est l'objectif aussi. Donc un gâteau et une bénédiction pour nos ados. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine, vous aussi qui êtes en ligne. Et encore une fois, à Jésus, toute la gloire. Et on peut finir en a cappella. À jamais tu seras, en applaudissant le Seigneur. À jamais. À jamais tu seras.
À jamais tu seras.
L'agneau sur le trône,
l'agneau sur le trône.
Je fléchis le genou,
je fléchis le genou pour t'adorer toi seul,
pour t'adorer. Bon dimanche à tous, soyez bénis.